Bonjour à tous. La question des vaccins pour les 12-17 ans. Le laboratoire Moderna va demander l'autorisation en Europe de son vaccin pour les adolescents. Sonia Gobry, Célia Kyré dans un instant. Le concours de l'Eurovision enflamme les réseaux sociaux. Le chanteur du groupe italien, vainqueur de la compétition, accusé d'avoir consommé de la cocaïne en direct en Italie. La polémique ne prend pas. Concours insolite ce matin à l'Élysée. Un concours d'anecdotes entre Emmanuel Macron et les stars de YouTube, McFly et Carlito. En une heure, la vidéo a été vue par 500 000 internautes. Épilogue ce soir de la saison de Ligue 1 de football. Lille est tout près du but avec un point d'avance sur le PSG. Invité de ce journal, l'ancien gardien de but Jérôme Alonso et consultant football pour France Inter. Dans ce journal également, la fin de l'occupation du théâtre de l'Odéon, l'Allemagne qui s'équipe en bornes de recharge pour voitures électriques et l'art qui s'invite dans les EHPAD. La météo pour cet après-midi et pour demain, temps calme et sec, dégradation dans l'après-midi par le nord-ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est un indicateur très rassurant et qui laisse espérer que l'épidémie va continuer à perdre du terrain. Le nombre de patients Covid hospitalisés est passé sous la barre des 20 000 malades. C'est la première fois que cela arrive depuis 7 mois et octobre dernier. Dans le même temps, pratiquement 23 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin. L'objectif est d'arriver à 30 millions de premières injections au 15 juin. Ce matin, le patron de la société américaine Moderna, le français Stéphane Bancel, annonce dans un entretien au journal du dimanche qu'il va demander début juin l'autorisation en Europe de son vaccin pour les adolescents. Stéphane Bancel préconise également une troisième dose de vaccin dès la fin de l'été pour les personnes à risque, Sonia Gobry.
Stéphane Bancel estime que l'arrivée des variants augmente le niveau de menace, une menace qu'il veut anticiper. Le patron de Moderna recommande donc de vacciner avec une troisième dose toutes les personnes à risque, notamment les résidents d'EHPAD. La plupart d'entre eux ont reçu leur première dose entre janvier et mars. Pour Stéphane Bancel, cette troisième injection doit être faite dès la fin de l'été et prévient, 2 à 3 mois de retard entraînerait selon lui de nombreuses hospitalisations et des morts. L'autre priorité, toujours selon lui, c'est la vaccination des ados. Sans cela, le risque d'une quatrième vague ne peut être écarté, déclare Stéphane Bancel dans le JDD. L'idéal pour lui serait de vacciner les adolescents d'ici la fin des vacances d'été. D'ailleurs, Moderna va déposer début juin une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne de son vaccin anti-Covid pour les 12-17 ans.
Alors concernant justement la vaccination des 12-17 ans, comme c'est le cas aux États-Unis, en France, la question d'une vaccination des 16-18 ans est posée, mais pour l'instant, la décision n'est pas prise, a indiqué le ministère de la Santé. Célia Kyré a joint Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur au CHU de Lille.
Le fait de mettre en place une vaccination en dessous de 18 ans permettrait à la fois d'améliorer l'immunité collective, mais également de réduire énormément la circulation du virus dans cette population. Il y a une autre raison qui rend la vaccination des moins de 18 ans intéressante et importante, c'est le fait qu'on a pu se rendre compte lors de l'ouverture des terrasses le 19 mai, et ça risque de continuer, c'est que ce sont essentiellement des populations d'hommes et de femmes de moins de 25 ans qui sont sortis. Donc l'idée de pouvoir les protéger, en particulier avec l'arrivée de l'été des mouvements, pour ceux qui sont dans la tranche 18-16, hein, puisqu'aujourd'hui on a des essais qui montrent que c'est faisable maintenant, pourrait être une excellente solution. Et éventuellement, si on pouvait à la rentrée finir de vacciner les adolescents, ça permettrait justement de passer peut-être un hiver plus serein avec une meilleure couverture vaccinale et l'accès à l'immunité collective.
Le professeur Philippe Amouyel avec Célia Kyré. Le concours de l'Eurovision est une polémique ce matin autour du vainqueur italien. Le groupe rock Maneskin, le chanteur Damiano David, est accusé d'avoir consommé de la cocaïne en direct hier soir, ce que nie le chanteur avec force. Il a accepté de se soumettre à des tests anti-drogue. Sur les réseaux sociaux, l'affaire s'enflamme. Finalement, la France et Barbara Pravi, arrivée deuxième, pourraient-elles l'emporter? La polémique incendiaire sur Twitter n'a visiblement que peu d'écho en Italie. Rome, Olivier Tosseri.
Un triomphe, c'est le mot qui s'étale à la une de la presse italienne pour fêter la victoire du groupe Maneskin. Pour la troisième fois de son histoire, l'Italie remporte la compétition de l'Eurovision. Son dernier titre remontait à plus de 30 ans et les médias ne tarissent pas d'éloges sur le charisme, le talent, la jeunesse et l'énergie des membres du groupe. Dans ce contexte, les accusations de consommation de cocaïne par le chanteur Damiano David sont à peine évoquées. Il se soumettra néanmoins à un test anti-drogue pour faire taire la polémique. Les caméras de télévision qui filmaient son groupe pendant l'attente des résultats le montrent penché, nez en avant sur la table, sniffant quelque chose. L'un de ses partenaires le rappelle à l'ordre d'un geste discret du coude. Interrogé en conférence de presse, Damiano David a expliqué que le guitariste avait cassé un verre avec sa jambe et qu'il ne faisait que ramasser les morceaux. « Je ne prends pas de drogue, ne dites pas ça s'il vous plaît », a-t-il insisté. Il aurait pu répondre avec le titre de la chanson qui lui a fait remporter l'Eurovision. « Taisez-vous et soyez sage ». Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et Barbara Pravi, la concurrente française à l'Eurovision, sera l'invitée demain matin de Léa Salamé à 7h50. Une rencontre pas commune ce matin à l'Élysée. Emmanuel Macron, avec les deux youtubeurs stars McFly et Carlito, s'est livré, comme il l'avait promis, à un concours d'anecdotes. La vidéo a été diffusée ce matin. Le président Macron, McFly et Carlito se sont donc livrés à des blagues entre football et concert de métal. Résultat du concours, match nul et une heure après la diffusion, à 11h, 500 000 vues, Élodie Forêt.
Vous l'avez attendu, on l'a obtenu, grâce à vous.
Chose promise, chose due. Emmanuel Macron, depuis un salon de l'Élysée, se prête au concours d'anecdotes. Le principe, raconter une histoire à l'équipe d'en face de deviner si elle est vraie ou fausse.
Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille.
Public ciblé, les jeunes, les adolescents. Pour les conquérir, Emmanuel Macron multiplie notamment les anecdotes sur le foot et va jusqu'à appeler en direct Kylian Mbappé.
Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille.
Impossible.
Huit anecdotes se suivent ainsi. Résultat des courses, une égalité parfaite.
On se dit donc qu'on appliquera les deux gages.
Le petit cadre pour l'interview du 14 juillet. Et pour nous, on sera dans les avions de ce 14 juillet aussi. Je pense qu'on va tout simplement gerber.
Et une émission qui se termine dans le jardin de l'Élysée avec le groupe de métal Ultra Vomit. 36 minutes de pure communication politique pour le président, ni question ni révélation gênante ou intéressante. Reste à savoir quel sera le gain politique d'une telle opération. Est-ce que le succès d'une vidéo YouTube aura le moindre impact dans les urnes ?
Voilà, Mbappé à Marseille, c'est non, on vient de l'entendre, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, ce suspense jusqu'au bout, à tous les niveaux, lors de la troisième et dernière journée de Ligue 1 de football ce soir, et peut-être le grand soir pour Lille. Le club est en tête au classement général avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Lille affronte Angers et le PSG se déplace à Brest. Le titre de champion de France se joue donc ce soir à partir de 21h et à Lille, on rêve d'exploit. Christophe Galtier, entraîneur de Lille au micro de Sylvain Charlet de France Bleu Nord.
C'est le fruit d'un travail incroyable tout au long de la saison. Il devient exceptionnel dans notre championnat à partir du moment où vous avez une équipe comme le PSG, un club comme le PSG, avec autant de moyens, avec un budget incroyable, avec des stars mondiales. Évidemment que j'ai regardé la finale, j'ai regardé les stats de Kylian Mbappé. Évidemment que tous les titres sont beaux. Et toutes les équipes qui ont été championnes avec leurs joueurs, avec leurs entraîneurs, c'est une grande performance. Mais je crois, en étant très honnête, que quand vous êtes champion de France avec une telle concurrence, c'est un exploit, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Voilà Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille. Quelle saison, en tout cas, quelle saison sportive, extra-sportive et en période d'épidémie du coronavirus. Invité de ce journal, Jérôme Alonso, ancien gardien de but du PSG, mais aussi de l'OM, de Nice, de Saint-Etienne et de Nantes, et consultant football de France Inter. Bonjour Jérôme Alonso.
Bonjour Frédéric.
Alors tout se joue donc ce soir et Lille, à moins de craquer ou de s'effondrer, devrait gagner. En tout cas, les Lillois ont leur destin entre les mains.
Exactement. Lille a son destin entre les mains après une saison honnêtement très aboutie, très sérieuse, très costaud, faite de hauts et de bas évidemment, mais les bas ont été très vite gommés par un état d'esprit irréprochable, Christophe Galtier à la baguette, des joueurs fantastiques à toutes les lignes, une équipe qui n'a perdu que 3 fois, donc qui logiquement devrait être sacrée ce soir, mais vous savez, il y a Angers. Il y a un déplacement à Angers et Angers va fêter son coach pour la dernière fois, son dernier match. Il peut se passer plein de choses contre une équipe qui ne joue plus rien, et croyez-en mon expérience.
Alors Jérôme Alonso, Lille est en tête, si j'ai bien regardé, depuis la cinquième journée, mais jamais à plus de 4 points d'écart du PSG. Ça veut dire que pour vous, c'est un titre mérité pour Lille qui est vraiment constant sur toute la saison?
Alors Frédéric, si, on n'y est pas encore, hein, mais ouais. Si Lille devait être sacré ce soir, oui. Vous savez, moi j'ai toujours pour principe de dire qu'un championnat c'est bien fait. Ça veut dire que c'est 38 journées, c'est pas des calculs savants, c'est celui qui a le plus de points à l'arrivée, il gagne. Ça veut aussi dire que logiquement, celui qui a perdu le moins de matchs, celui qui a été le plus régulier, donc devrait être sacré. Ce soir, ce ne sera peut-être pas le cas. Je veux dire, si Lille fait nul et que Paris gagne à Brest, Paris sera champion, et Paris serait champion avec 8 défaites. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1. Donc effectivement, si vous me demandez mon avis, effectivement, mon cœur est plutôt parisien, mais mon avis, c'est que Lille mériterait d'être champion cette année, oui.
Oui, 8 défaites, hein, vous disiez, pour le PSG cette saison. Alors c'est une saison assez particulière, hein, une saison sans public. Est-ce qu'il y a eu plus de victoires à l'extérieur, par exemple, qui expliquerait les 8 défaites du PSG?
En tout cas, ce qui est certain, Frédéric, c'est que ça nivelle par le bas vos performances à domicile. C'est mathématique, c'est mécanique. Évidemment, il y a moins d'ambiance, moins d'engouement. Forcément, pour les visiteurs, c'est beaucoup plus simple, notamment quand vous vous rendez au Parc des Princes, au Vélodrome, à Lyon, à Lille, notamment dans les salles où c'est très chaud. Mais quand vous êtes le visiteur, forcément, la pression est moins importante. Donc effectivement, je pense que les résultats à domicile cette année sont mécaniquement moins bons que d'habitude quand vous avez votre public. C'est absolument normal.
Jérôme Alonso, si on enlève Paris et ses stars et la Coupe d'Europe de notre championnat, quel est le niveau réel, selon vous, du championnat français, de la Ligue 1?
Je suis toujours, je ne fais pas partie des sceptiques qui crachent dans la soupe. Évidemment, on n'a pas le championnat le plus fort d'Europe. Vous m'entendrez jamais dire ça. Mais je refuse aussi de dire qu'on est un championnat de sous-catégorie, de troisième zone. C'est pas vrai. Vous venez de dire, Frédéric, si on enlève le PSG. Mais oui, mais le PSG est là. Le PSG est là. Et c'est une vraie force, c'est une vraie valeur marchande pour nous qui bossons autour de ça, pour les gens qui jouent contre eux. Croyez-moi, tout le monde est content d'avoir ce PSG-là dans notre championnat. Et ce PSG-là dans notre championnat fait effectivement que nos matchs sont vus dans le monde entier par des millions et des millions de personnes. Donc effectivement, ce PSG-là est important. Ce PSG-là peut-être battu ce soir sur le long terme, mais ça nous prouve encore une fois que notre sport magnifique n'est pas une science exacte, et que Lille aura bien fait son boulot, mais moi je vous garantis que notre championnat est un bon championnat, qu'il recèle d'excellents coachs, d'excellents joueurs, qu'on a la meilleure formation au monde. Donc non, je défends mon championnat bec et ongles, et c'est un bon championnat.
Alors,
pas le meilleur, ouais. Pas le meilleur évidemment en Europe, mais il est de très très bonne qualité.
Alors Jérôme Alonso, je voulais vous poser une question sur Mbappé au PSG ou pas, mais Emmanuel Macron nous a donné la réponse dans le sujet d'Élodie Forêt juste avant. En tout cas, il n'ira pas à Marseille. Il y a une saison agitée, on a parlé du cornélisme, mais aussi l'affaire Midiapo, mais aussi la Super League finalement avortée. Est-ce que ces deux affaires vont laisser des traces?
Je pense pas. Je pense que l'affaire de la Super League va au contraire resserrer les liens autour d'une certaine idée du football. Alors évidemment, l'argent sera toujours roi, mais bon, dans quel milieu, c'est pas le cas de nos jours. Mais dans le football, évidemment, plus qu'ailleurs. Donc je pense que ça resserrera au contraire les liens populaires entre le football et le public, ce qui est son intérêt premier à mes yeux. Mais je crois que cette saison particulière nous a recentré sur plein de choses. On sera encore plus heureux d'aller au stade après. Les joueurs seront encore plus heureux d'avoir du public dans les stades après. Finalement, il fallait peut-être passer par là pour que tout le monde réapprécie un peu et se rende compte finalement de à quel point on était privilégié d'avoir ces joueurs fantastiques sous nos yeux, ces générations incroyables. On a eu quand même là 20 ans de Ronaldo, Messi. Là, on a peut-être 20 ans de Mbappé, Haaland d'avenir. Voilà, on est quand on aime le foot dans la période où l'on est, on doit se sentir privilégié. Et cette saison, si particulière, vous l'avez dit, Frédéric, doit nous faire encore plus apprécier notre sport et nous dire que franchement, le plus beau est à venir.
Merci beaucoup, Jérôme Alonso, ancien gardien de but et consultant football de France Inter. Tous les matchs sont ce soir à partir de 21h.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
La voiture électrique star en Allemagne. Les ventes de voitures électriques ont triplé l'an dernier et l'Allemagne se donne les moyens de faire encore mieux en facilitant l'utilisation des voitures électriques. Les députés ont voté une loi qui va permettre de voir fleurir en Allemagne 1 millier de bornes de recharge ultra rapide. Cela représente un investissement de près de 2 milliards d'euros. À Berlin, Ludovic Piétenu.
L'idée, c'est de ne pas avoir à faire de grands détours, que chaque propriétaire de véhicule électrique puisse atteindre un point de charge rapide en 10 minutes. Sur les autoroutes, par exemple, cela veut dire une station tous les 20 ou 30 km. On parle de charge ultra rapide en seulement quelques minutes, mais ces stations, aujourd'hui au nombre de 800, représentent moins de 3% des 40 000 bornes accessibles. 1000 de plus, c'est un progrès considérable. C'est un facteur non négligeable aussi pour accélérer les ventes de véhicules électriques. Près de 200 000 nouvelles immatriculations l'an dernier en Allemagne, soit 3 fois plus que l'année précédente. L'électrique ou l'hybride au mois d'avril viennent de faire un bond de 400% en une année, soit une part de marché désormais de 22%. C'est près d'une voiture vendue sur 4. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
La coulée de lave du volcan Nyiragongo s'est arrêtée aux portes de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'éruption du volcan hier soir et cette nuit a provoqué des scènes de panique à Goma, une ville de 2 millions d'habitants et des milliers de personnes ont fui vers le Rwanda voisin. Sur place, Laure Boulard.
Toute la nuit, des informations contradictoires ont circulé sur les réseaux sociaux, accompagnées d'images de routes et de maisons en feu. La principale coulée de lave qui menaçait Goma s'est finalement arrêtée à Bouéné, en périphérie de la ville, et n'a pas atteint l'aéroport. Chez les habitants, l'heure est donc au soulagement. Beaucoup craignaient de tout perdre, comme lors de la dernière éruption du volcan en 2002, qui avait détruit un tiers de la ville. Un habitant de Goma confiait ce matin avoir veillé pendant des heures avec sa famille, prêt à un départ en urgence vers Bukavu, un peu plus au sud. Il a finalement pu prendre le petit déjeuner dans sa maison. Les quelques 8000 personnes qui avaient traversé la frontière rwandaise ont quant à elles passé la nuit dans le stade de Rubavu, dans des écoles ou dans la rue. Mais la majorité est déjà rentrée à Goma ce matin. Reste que de nombreuses habitations ont brûlé dans des villages alentours et que 5 personnes ont perdu la vie dans des déplacements de population, selon un bilan provisoire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Rubavu, Laure Broulard, RFI pour France Inter.
En France, la fin de l'occupation du théâtre de l'Odéon. Les intermittents du spectacle ont quitté d'eux-mêmes ce matin le célèbre théâtre de Paris qu'ils occupaient depuis plus de 2 mois. L'occupation de l'Odéon a été le point de départ d'un mouvement national dans une centaine de salles à travers la France. Stéphane Capron.
Les représentations vont donc pouvoir reprendre à l'Odéon. La direction avait décidé de ne pas rouvrir ses portes au public la semaine dernière, estimant que les conditions sanitaires n'étaient pas requises. En quittant les lieux, les occupants ont décidé de laisser le théâtre reprendre ses activités. Mais les intermittents n'en ont pas fini avec leur mouvement. Il va se réorganiser différemment. Le gouvernement est prévenu. Ils l'écrivent dans un communiqué. « Tant que nous étions à l'Odéon, vous saviez où nous trouver. Maintenant que nous sommes sortis, attendez-vous à des surprises. » Déjà ces derniers jours, certaines antennes de Pôle emploi ont été occupées, car ce mouvement social va bien au-delà du monde de la culture et concerne tous les précaires. La fin de l'occupation de l'Odéon à Paris va certainement permettre de décoincer la situation dans d'autres théâtres occupés et toujours fermés au public, la Colline à Paris, l'Opéra de Lyon et la Criée à Marseille.
On termine avec cette initiative. Quand l'art s'invite à l'EHPAD, les musées ont rouvert leurs portes cette semaine, mais les résidents des EHPAD, à cause du coronavirus, restent coincés dans leurs établissements. C'est donc la culture qui va dans les EHPAD. La Fondation culturelle Art Explora organise des ateliers en visioconférence 3 fois par semaine. Des bénévoles débattent avec les résidents. Un moyen également de raviver leurs souvenirs. Reportage à l'EHPAD Corian, Champ de Mars, Océane Théard.
Dans la salle de restaurant vide, les résidents de l'EHPAD s'installent en cercle.
Monsieur Scherer, venez, voilà, la 5e personne.
Parmi eux, il y a Marguerite, 87 ans, le dos bien droit sur le dossier de son fauteuil roulant.
Rester seule dans une chambre, c'est pas évident. J'aime bien discuter, voilà.
Pendant une grosse demi-heure, les résidents vont s'envoler virtuellement à plus de 1000 km des murs blancs de l'EHPAD. Direction Rome, son soleil et surtout ses sculptures.
Là, c'est une fontaine qui se trouve sur la Piazza Navona, qui est une des plus célèbres places de Rome.
Sur l'écran, Ombline, bénévole d'Art Explora.
Et 2 autres petites fontaines, dont celle qu'on voit à l'écran au premier plan.
L'escapade romaine ne manque pas de faire ressurgir des souvenirs, surtout pour Marguerite.
Alors, je ne sais pas si vous avez goûté les glaces italiennes, mais en tout cas,
oui,
celle-là, je m'en souviens.
Ah oui, elles sont très bonnes. Ah oui, ça, j'en aime beaucoup manger. Bah, maman est italienne, alors.
Pour Ladi Ouidir, animateur à l'EHPAD, c'est une manière de recréer un musée à domicile en attendant de pouvoir admirer l'étoile pour de vrai.
On a le musée du Quai Branly, pas très loin, à 700 mètres, le grand palais éphémère qui s'est installé au Champ de Mars. Beaucoup de résidents attendent de pouvoir sortir et d'aller visiter quelques expositions, comme ils le faisaient avant.
L'animateur espère pouvoir de nouveau emmener ce joyeux petit groupe dans les musées d'ici la fin du mois de juin.
Voilà, reportage Océane Théard. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Amélioration aujourd'hui pratiquement partout avec cet après-midi un ciel variablement nuageux, ponctué de rares précipitations, en particulier près de la Manche et de l'Occitanie à la frontière italienne et sur la Corse. Et attention, le risque d'avalanche reste élevé sur les Alpes. Les températures vont afficher un peu comme hier, un maximum de 14 degrés près de la Manche, 22 à 24 sur le bassin méditerranéen. Il fera 16 à 20 degrés du nord au sud sur les autres régions. Une amélioration certes, mais de courte durée. Dès ce soir, il faudra ressortir les parapluies sur la Bretagne. Dans un même temps, le vent va nettement se renforcer jusqu'à 90 km à l'heure sur les côtes. La nuit prochaine et demain, cette perturbation va glisser vers le sud et l'est du pays. À l'arrière, des averses vont se mettre en place. Elles seront plus fréquentes et parfois orageuses, du nord de la Loire à la frontière belge et souvent accompagnées de bourrasques à 70 km/h.
Jean-Michel Golinski de Météo France.